La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors parmi les cinq femmes recensées par l'évangéliste Matthieu dans la généalogie du Christ, eh bien la première qui a droit de citer n'est autre qu'une certaine Tamar, la Cananéenne, pour beaucoup d'autres noms, on pourrait dire une parfaite inconnue.
Oui, c'est pas faux quand même, hein. Les quatre autres, d'ailleurs, ne sont pas toutes d'une célébrité formidable. Hein. Elles sont entrées toutes par, comme par effraction, dans une histoire qui ne comptait pas avec elles a priori, et que pourtant elles ont largement contribué à remettre sur les rails. C'est Rahab, la prostituée de Jéricho,
au livre de Josué.
Oui. Ruth, la Moabite.
Au livre de Ruth.
Exactement. Toutes deux des étrangères, il faut le souligner. Bethsabée, la femme d'Uri le Hittite.
Là, on est dans le cycle de David, au deuxième livre de Samuel.
Oui. Pour finir par Marie, la fiancée de Joseph, lequel avait résolu tout de même de la répudier en secret.
Bon, et là, c'est raconté par Saint Matthieu.
Voilà. Mais toutes ont eu à cœur de partager le sort
de sauver l'Alliance.
De sauver l'Alliance, par leur dévouement prophétique. De sauver même cette alliance scellée par Dieu avec son peuple, chaque fois que cette alliance était menacée de disparaître, et jusqu'à la Vierge qui va lui donner d'advenir par son fiat librement consenti et de se réaliser donc dans la personne de Jésus-Christ.
En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ce chapitre 5, j'allais dire, dans ton livre Les couples phares de la Bible, où tu nous parles d'un couple vraiment un peu de derrière, enfin beaucoup moins connu, Judas et Tamar, en tout état de cause, envisager ce focus sur ce couple un peu improbable et éphémère qu'ils forment au regard de l'histoire du salut, eh bien c'est postuler qu'aucun maillon n'est superflu dans la chaîne générationnelle, d'autant Jocelyne que tu sais que le mot « histoire » en hébreu n'existe pas.
C'est vrai.
Et il n'existe pas en tant que tel, puisque en fait, c'est un pluriel qu'on utilise dans ces cas-là pour dire le mot histoire et qu'on pourrait plutôt traduire tolédote, c'est les générations au pluriel.
Oui, c'est ça. Oui, tu as raison.
Alors, d'où il ressort que chaque jalon participe, pour sa part, à la juste marche des choses et nul ne saurait s'y dérober sans provoquer de graves désordres, contraignant d'autres acteurs à y remédier par leur courage et leur amour de la vérité. C'est donc le rôle que va endosser Tamar lorsque Judas va faire défaut. Nous allons regarder ça de plus près.
Oui. Alors, la première question qui surgit, c'est qui est donc ce quatrième fils de Jacob, donc Judas, Jacob et Léa.
Rien à voir avec Judas Iscariote.
Non, non, bien sûr, on n'est pas du tout à la même époque, hein, il y a quelques siècles entre les deux, pour qu'il ait à voir avec l'espérance messianique. D'évidence, nous savons qu'il n'est pas l'aîné, puisqu'il est le quatrième. Avant lui, sa mère, qui n'était pas aimée, nous dit l'Écriture au chapitre 29 de la Genèse.
Et qui s'appelait Léa.
Parce que son père était absolument fasciné par Rachel, demeurait longtemps stérile, 20 ans tout de même, avait mis au monde donc de nombreux fils, Ruben, l'aîné, Siméon et Lévi, et alors quand il naquit, Judas, Léa crut qu'elle avait vraiment définitivement disqualifié sa sœur aux yeux de Jacob, et elle va s'écrier cette fois: je rendrai gloire à Yahvé, au Seigneur, rodé, rendre gloire, la louange en hébreu, qui a formé Judas, au chapitre 29 de la Genèse.
Oui, mais Dieu a beaucoup d'humour, parfois un humour un peu glaçant, oui, puisque c'est une sorte d'apothéose au goût amer, puisque aussitôt la Bible conclut, et alors qu'elle venait donc d'enfanter ce quatrième enfant, le texte d'ajouter, puis Léa cessa d'avoir d'autres enfants. Ainsi, Judas se trouve investi d'une charge affective, d'autant qu'il est très intelligent et fin manœuvrier parmi sa fratrie, notamment en lien avec l'histoire de Joseph. Celle-ci continue de croître, cette famille, grâce aux deux servantes, Bila et Zilpa, puis de rechef à Léa, pour finir par Rachel, qui va avoir deux enfants, Joseph et Benjamin, les 11e et 12e fils de la fratrie.
Voilà. Alors, Au demeurant, à la naissance de Joseph, Judas ne peut que constater le déclin de son étoile, dans la mesure où son père voit, en celui qu'il qualifie de fils de sa vieillesse, l'aîné selon son cœur, en fait, parce que il est l'enfant miraculeux qui le pousse à secouer la férule de son beau-père Laban pour rentrer en Canaan. Il est le fils bien-aimé de l'épouse bien-aimée.
Et plus les années passent, plus grandit le ressentiment des 10 frères contre Joseph, le chouchou de son père Jacob, lequel d'ailleurs ne cache même plus sa préférence, hein, en lui offrant une belle tunique ornée, assumant ainsi son choix d'en faire leur prince, au risque de déchaîner leur haine fratricide.
Et oui, il est quand même le 11e, hein, au regard de la tradition juive. Ce manteau qu'il va lui donner, la belle tunique ornée, eh bien, elle est, ce manteau rebrodé, la kétonette passible, la tunique aux longues manches, n'est autre que le vêtement que Dieu, selon la tradition juive, Dieu lui-même, avait confectionné pour Adam après la chute, afin qu'en le portant, il soit défendu des dangers qu'il allait devoir affronter hors du jardin d'Éden. Donc, il figurait tous les animaux, les oiseaux aux mille couleurs, afin qu'à cette vue, les fauves intimidés ne se jettent pas sur lui pour le dévorer. De génération en génération, il était parvenu jusqu'à Jacob. Les deux songes de Joseph, le désignant comme leur futur roi, au chapitre 37 de la Genèse, l'avaient conforté, Jacob, dans cette intuition que c'était lui qui devait porter la kétonette passime. On se souvient que ce manteau, arraché à Joseph, vendu par ses frères, lacéré et maculé de sang d'un bouc, puis envoyé benoîtement à leur père par les 10 conjurés ligués contre celui qu'ils surnommaient par dérision le maître des songes, Abba al-Halamot en hébreu, avait constitué pour Jacob la preuve irréfutable que Joseph avait été mis en pièces, c'est-à-dire Joseph avait été Joséphé, on pourrait dire.
Un jeu de mots, hein,
exactement,
qui joue sur l'étymologie de Joseph.
Exactement. Par une bête féroce, et donc qu'il était mort.
Joséphé, pourquoi ? Parce que Joseph, c'est à la fois ce qui m'ajoute et ce qui retranche. C'est à la fois une addition et une soustraction. Donc, mettre en pièce, cette dimension complètement paradoxale, c'est donc ce terme qu'emploie pour dire Joseph a été Joséphé, que nous traduisons au mieux possible en français par mettre en pièce, par une bête féroce. Donc, lors du complot, 3 d'entre eux, parmi les frères, vont se distinguer. Ruben, l'aîné de toute la fratrie, qui va s'interposer afin d'éviter que Joseph ne soit tué, et il propose plutôt qu'on le jette dans la citerne. Ensuite, il y en a un autre, Siméon, au contraire, qui va pousser Joseph dans la citerne, ce dont d'ailleurs Joseph se souviendra, puisque une fois qu'il sera vizir, il va se venger de ça, en le retenant, notre Siméon, prisonnier, dans un cul de base fausse, et le seul moyen de pouvoir le délivrer, c'est de revenir avec Benjamin. Sinon, il restera pour toute sa vie à croupir dans cette geôle égyptienne. Et puis, on revient à Judas, puisqu'on parle quand même de lui, hein, dans cette émission. Judas, il va s'interposer en proposant, au moment où notre Joseph a été mis dans la citerne, de ne pas le laisser mourir, parce que sinon ils auraient leur sang sur la conscience, mais plutôt de le vendre pour ne pas avoir son sang sur leurs mains.
Et justement, il y a une caravane qui passe, et c'est un peu un signe du ciel. Voilà, on va le vendre.
Alors ensuite, en Égypte, on se souvient donc de ce manteau qui a été lacéré, qui a été maculé de sang et qui a été offert après le temps d'une lune à Jacob. Et donc c'est un mensonge qui va non seulement anéantir le père, volontairement inconsolable.
Oui, il le dit, je
porterai mon deuil,
ouais,
drapé dans mon linceul. Et insidieusement, ce mensonge, cette omerta, va aussi miner tout le clan.
C'est un
véritable poison, ce secret pour cette famille. Donc c'est d'ailleurs ce que suggère le début du chapitre 38, lequel suit immédiatement le récit de ces faits, en commençant par une phrase énigmatique qui déclare « Il arriva, vers ce temps-là, que Judas se sépara de ses frères. »
En fait, Comment peut-il, dans la mesure où ces derniers, tous les frères l'écoutaient, hein, donc ils avaient confiance en lui, pourquoi ne leur avait-il pas donné l'ordre de ramener Joseph sain et sauf à leur père? Ils essayent de se dédouaner de ce crime, eux. Ce grief lancinant, quoique muet, nourri par ses frères, tout en les dédouanant, je l'ai dit, ronge Judas, en faisant de lui l'unique coupable. Hein, c'est lui le mouton à cinq pattes, hein, c'est lui le bouc émissaire. Déchoir aux yeux des siens, eh bien, en fait, l'orgueilleux Judas ne peut pas le supporter.
Donc, dans le camp, l'air est clairement devenu irrespirable, hein, car le fantôme de Joseph hante les esprits à la vue du désespoir de Jacob. Et n'y tenant plus, Judas décide de prendre le large. Loin de ses frères, il va s'établir auprès d'un certain Ira d'Adoulam. Hein, au lieu d'aller chercher une épouse en Haran, à l'instar de ses pères, il va convoler avec une certaine Choua, sa fille, une cananéenne, dont la culture va influencer grandement les mœurs des trois fils qu'ils vont avoir. Son aîné s'appelle Er, E-R, et son prénom veut dire l'éveillé ou le dressé. Ensuite, il va avoir un cadet qui s'appelle Onan, le second, et son prénom Onan signifie le triste ou même le stérile. Et plus tard, ils auront un troisième fils, Judas et Choua. Et ce fils, ils vont l'appeler Shéla. Shéla, ça veut dire l'insouciant, que sa mère, d'ailleurs, a enfanté dans un lieu qui s'appelle Kézib. Et Kézib, ça s'écrit comme Kazab en hébreu, à savoir le mensonge. Donc ainsi, en fuyant, Judas se croit-il hors de portée du mensonge qui mine sa famille, bien qu'en réalité, il l'emporte avec lui, et que ce mensonge va aussi contaminer toute sa descendance à son insu.
C'est dans ce contexte très inquiétant que Tamar entre en scène. Quand Er fut en âge de se marier,
donc le fils aîné,
exactement, Judas choisit pour lui la sublime Tamar, dont le nom désigne aussi le palmier dattier. Sa silhouette altière, sa taille souple et le panache verdoyant de l'arbre trahissent, au milieu du désert, la fraîcheur promise d'une oasis où il va faire bon se reposer, se désaltérer. Telle est aussi Tamar, la cananéenne. Or, pour ne pas risquer de gâcher pareil trésor,
fils aîné de Judas.
Exactement. Er décida, entre guillemets, nous dit l'Écriture, de laisser perdre à terre. Il s'agit de sa semence en réalité, de peur que la maternité ne vint altérer la taille de son épouse et gâter sa silhouette.
Et le texte d'ajouter, ce comportement déplut au Seigneur qui fit mourir Er, fils aîné de Judas. Alors, conformément à la loi qu'on dit la loi du Lévirat, eh bien Judas va donner Tamar, cette femme nouvellement veuve,
sublime,
en mariage au second fils, qui s'appelle Onan. Et cette loi fait donc obligation aux frères d'un homme mort, sans laisser de descendance, d'épouser sa veuve, afin que le nom du défunt ne soit pas effacé d'Israël.
Ni son héritage. Le beau-frère porte le nom de Lévir, en latin, Yabam en hébreu, c'est-à-dire celui qui va exercer le lévirat. En fait, il n'y consent pas du tout.
Ces cas-là, belle-sœur flouée peut tout à fait traduire ce lévir qui ne respecte pas son engagement devant un tribunal.
Oui, et dans ces cas-là, elle fait un geste, c'est-à-dire qu'elle lui détache, elle ôte la sandale de cet homme, elle lui crache au visage, et la maison de cet homme qui s'est déshonoré en n'exerçant pas son lévirat est appelée maison du déchaussé. On le trouve au chapitre 25 du Deutéronome. La raison en est que lorsqu'on acquérait une terre en Israël, la façon de signer, j'allais dire, la promesse de vente, c'est qu'on jetait sa sandale sur la terre pour signaler que désormais elle nous appartenait. Elle était la terre qu'on aurait le droit de fouler. Le lévirat vise donc à assurer le maintien des biens à l'intérieur des familles et à protéger ainsi la veuve de la misère et de l'abandon, parce que ses enfants auront droit à l'héritage de leur père. Alors, elle fait donc exception, cette loi du lévirat, à la législation sur l'inceste qui interdit de coucher avec sa belle-sœur, laquelle donc ne peut non plus un homme ne peut pas non plus coucher avec sa belle-fille sous peine de mort pour tous les deux. Donc, si un homme n'a pas de frère à défaut, c'est son plus proche parent qui va exercer ce droit, comme c'est le cas, par exemple, que nous verrons plus tard pour Boaz envers Ruth.
Ou même pour Tobie et Sarah.
Exactement, que aussi nous verrons un petit peu plus loin.
Donc, Judas a ses trois fils. Er, le premier, ne voulait pas endommager la beauté de Tamar, donc il va finir par mourir de ce comportement. Judas offre Tamar à son cadet qui s'appelle Onan. Donc Onan, que le décès de Er propulse tout d'un coup au rang d'aîné, va user du même procédé déloyal envers Tamar, d'où d'ailleurs le nom qui a été créé à partir de son prénom, qui dit l'onanisme, ça vient de ce personnage-là.
Exactement.
Et donc, afin de priver son frère d'une postérité qu'il aurait lui-même relégué à son rang de cadet, le privant de la double part de l'héritage attaché au droit d'aînesse. Oui, en conséquence...
C'est l'argent qui le fait, donc lui, agir. Hein.
Et donc, en conséquence, ce qu'il faisait déplut au seigneur, qui décide de faire mourir aussi Onan à son tour, nous précise le livre de la Genèse, chapitre 38. Alors Judas quand même prend peur, il a perdu ses deux aînés, cette femme, Tamar, elle porte malheur. Il ne va quand même pas lui donner son troisième fils, Shéla, c'est le dernier qui lui reste.
Ah ben oui, c'est ça.
Et donc prétextant le jeune homme de ce Shéla, de ce fils, il décide de renvoyer Tamar chez son père, lui promettant de la rappeler le moment venu.
Alors, ce moment venu, je te dis tout de suite, il n'y va
pas.
Jamais. Les années vont passer et Tamar s'étiole dans son statut de promise au long cours. Faute d'avoir été libérée par la cérémonie de la Halista, elle continue d'appartenir au clan de Judas. Elle ne veut pas se remarier. Elle n'a pas on ne lui a pas signé d'acte de divorce. Alors même, j'allais dire, que Judas, que ce dernier l'en avait renvoyé sine die. Donc vraiment, là, on lui a joué un mauvais tour. Cependant, bien que cananéenne, Tamar estime au plus haut point son alliance avec la tribu de Judas, de laquelle doit procéder la descendance promise à Ève et confirmée par Jacob. Parce que Jacob a dit la chose suivante en mourant : le sceptre, c'est-à-dire la royauté, ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef, Shebet, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh, terme qui en hébreu désigne le Messie, et que les peuples ramines lui obéissent. C'est-à-dire la promesse est vaste et elle englobe elle, les Cananéens, elle englobe les païens.
En effet, parce qu'au contraire des 11 autres tribus, eh bien Judas a une vocation à l'universel, comme son propre mariage et le choix de Tamar pour ses fils le prophétise, car il est écrit « Judas se sépara de ses frères ». À vrai dire, cette ouverture aux nations qui annonce déjà l'entrée des païens dans l'héritage d'Israël, Judas peut l'annihiler en réservant Shéla à une de ses nombreuses cousines issues de ses propres frères. C'est ce qui donna à Tamar un courage prophétique dont la tradition juive atteste, déclarant « Tamar avait vu de loin qu'elle avait été choisie pour donner naissance à l'ancêtre du Messie ». Et d'ailleurs, l'évangéliste Matthieu ne devait pas l'ignorer quand il va placer cette femme, Tamar, dans la généalogie du Christ.
Oui, tout à fait. Sur ces entrefaites, revenons à l'histoire, il advint que le veuvage frappa Judas à son tour. Alors, ça c'est le chapitre 38 de la Genèse qui nous dit ça. Passé le temps du deuil, il se dit qu'il va monter à Timna pour la fête de la tonte des brebis. Parce que c'est une très grande fête où coule beaucoup de vin, c'est magnifique. On en avisa Tamar, qui décida aussitôt d'un stratagème extrêmement risqué pour elle. Elle alla se poster sur son chemin, visage voilé, comme c'est d'usage pour les prostituées. Ce qu'on lui refusait par le fils, elle allait l'obtenir par le père. Sitôt qu'il aperçut l'élégante silhouette, Judas, qui sortait de son veuvage, se précipita vers elle. « Laisse que j'aille avec toi, dit-il, péremptoire, emporté par la concupiscence et promettant de lui faire apporter, aussitôt qu'il le pourrait, un chevreau en guise de salaire.
Oui, mais Tamar, c'est d'expérience ce que valent les promesses de son beau-père Judas.
C'est sûr.
Elle exige donc qu'il lui remette sur le champ trois gages, lesquels identifient sans conteste leur possesseur. Elle lui demande de lui remettre son sceau, Rotam, c'est-à-dire son anneau armorié.
Oui, son anneau, sa signature. Hein.
Ensuite, son cordon, qu'on appelle le patil, qui s'apparente d'ailleurs au talit, le voile de prière. Et puis, son bâton, Shebet, lequel désigne Judas comme prince de Judas.
Alors, il croyait avoir affaire à une prostituée, Zona, hein, c'est le terme qui est employé, alors que c'était en épouse qu'elle se donnait à lui. En effet, et bien qu'à son issue, il lui confie les trois symboles propres au mariage juif. Le talit, armorié d'ailleurs pour, au clan de Judas, hein, à la tribu Judas, en guise de dé nuptial, là ou pas, soutenu par le bâton, Shebet, qui porte la puissance de sa tribu, hein, qui est gravé au nom de sa tribu, puis l'anneau nuptial, qui est le sceau pour signer. Donc voilà, ces trois choses qui sont irrévocablement la propriété
de
Judas et ce qu'il est, en fait, par rapport aux autres tribus. Dieu va récompenser l'audace incroyable, le courage de Tamar, parce qu'elle va devenir enceinte de Judas, comme elle l'espérait. Lequel comptait bien, évidemment, récupérer ses précieuses pièces d'identité, en chargeant son ami d'Adoulam de lui porter le chevreau promis dès qu'il a été arrivé à son troupeau pour la fête de la tonte.
Et donc, c'est sur cette grossesse complètement clandestine, hein,
oui,
que nous allons achever cette émission. Vous pourrez retrouver le contenu de cette émission dans le livre de Jocelyne, c'est le chapitre 5, cette union entre Judas et Tamar, un couple incroyable. Donc, dans ce livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Les couples phares de la Bible » paru chez Salvator. La chanson qui va être diffusée en fin d'émission s'appelle « L'Annonciation » et vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube, Étienne Tarnot, et sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Nous animons des contes et des concerts bibliques, conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapa@gmail.com. Bonne semaine à toi, Jocelyne.
Bonne semaine à toi, Étienne, et surtout bonne semaine à tous.
Midi, toi Marie, tu scrutes le rouleau qui parle du jardin, du serpent et d'Ève. À midi, toi Marie, tu tiens un écheveau de soie rouge carmin qui te vient d'Adam. À la croisée du temps et de l'espace, Marie, comblée de grâce, de tes lèvres qui fera de toi la mère du Messie. Dis oui, ô Marie, et l'alliance rompue, jadis dans le jardin, refleurira Jésus mieux qu'avant. Dis oui, ô Marie, pour que ton fils écrase la tête du serpent et soit vainqueur par son sang. À la croisée du temps et de l'espace, Marie, comblée de grâce, de tes lèvres j'attends le oui du fiat qui fera de toi la mère. En toi.